Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid.
Comment ça va pas recommencer?
Regarde qu'on n'est pas gratté depuis quelques temps.
J'ai chaud, je me sens pas très bien.
Non, c'est le vin chaud. Ça va aller.
Si t'as ni chaud ni froid, eh ben t'appuies sur le bouton marqué médium.
Bonsoir Lionel.
Bonsoir JB.
On vient de sortir de Star Wars épisode 9.
Bonsoir à tous, vous êtes au podcast à chaud.
Oui, bien sûr, bienvenue dans à chaud. Oui, j'avoue que parfois mes intros sont un peu...
rapides.
Un peu rapides, ouais, j'avoue. Mais bon. On vient de sortir de l'épisode 9.
Donc on a été voir le dernier film de la saga de Star Wars.
Voilà.
Donc, la dernière trilogie de Star Wars, l'épisode 9.
Réalisé par J.J. Abrams, qui est sorti ce 18 décembre, et nous sommes le 19.
Distribué par Disney, qui se frotte les mains, qui doit se frotter les mains depuis hier.
Attends, vu qu'ils ont gagné avec l'épisode 8, mon gars.
Putain, l'épisode 1 a fait 2 milliards. L'épisode 7.
L'épisode 7, ouais, mais l'épisode 8 a super bien marché. Pour
1 milliard 3, 1 milliard 4, un truc comme ça. Donc, ouais, et là,
comparé à Solo, qui a fait que 400 millions.
Putain.
Qui était pas si... Dans les années 2000, c'était pas si mal.
Tu sais que je lisais un truc tout à l'heure avant de venir sur les chiffres. Et il y avait un article qui en fait faisait un peu le rapport des résultats d'audience à l'époque en 77 par exemple de New Hope qui avait fait non c'était pas les résultats c'était les budgets
pour moi.
Et ça équivalait du coup je change de sujet je sais pas pourquoi je pensais aux audiences parce qu'apparemment le film là celui-ci donc l'ascension des
Rise of Skywalker
exact aurait coûté entre 250 millions et 300 millions.
Ouais.
Énorme.
Et c'est monstrueux, quoi. Et le premier, l'épisode 4, tu te souviens, je crois que c'était une dizaine
l'épisode
de millions.
Non, on était plus dans les...
40 millions,
mais au jour d'aujourd'hui, ça équivalerait à 170 millions.
Ouais.
Bon, si on remet maintenant avec...
Dans l'ordre des choses.
Économiquement et tout ça. Donc c'est quand même un film qui a rapporté 700 millions à l'époque, ce qui équivaut à mon avis aujourd'hui
à 7 milliards.
7 milliards quand même, 10 milliards.
On craque.
Complètement quoi.
On craque complètement.
Mais du coup...
Alors donc voilà, Lionel, je me permets de te demander quel est ton avis à chaud, tout de suite là.
Eh ben ça va. Le film est... Alors on l'a vu au Kinopolis de Bruxelles. À la séance de 19h30.
En laser 3D. Pas en IMAX. Les places, il n'y avait plus de place malheureusement.
Ça allait, la 3D, ça allait. Ça n'a pas gâché.
Non.
Ça ne m'a pas sorti du film.
Mais parce que c'est aussi une diffusion laser.
C'est des choses qui m'ont sorti du film.
Oui, oui. On en parlera après par rapport à Kinépolis. Voilà, notre grand amour de Kinépolis.
Oui, ouais. Exceptionnellement aujourd'hui.
Oui, mais voilà. Et IMAX, il n'y avait plus les places malheureusement. Je me suis pris un peu à l'arrache.
C'était complet.
La 3D.
Correct.
Elle est... enfin, de toute façon, c'est laser, donc au niveau de luminosité, c'est pas mal. Hein.
Mais je pense que si je le vois en 3D, ça sera pareil.
Oui.
On m'a pas chamboulé. Je me suis
non,
la 3D, elle est bien.
Elle est useless.
Comme on pourrait dire un peu tout le film, il n'y a pas de. Enfin bref.
Ouais. Donc continue ton avis, s'il te plaît.
J'avais des attentes en fait par rapport à cette trilogie donc, qui a commencé avec le 7. Donc. Le réveil de la force de Didier Abrams, qui était le tâcheron embauché pour suivre cette fameuse.
Le tâcheron activatif direct, le tâcheron.
Bah oui, ils ont pris un bon faiseur.
Oui, un bon faiseur. Mais non, je
scénaristiquement, c'est pas non plus trop ça.
Oui, Super 8 et Kambia. Moi, je suis assez fan de Super 8 dans la filmo de Abrams.
C'est du Spielberg.
Oui, c'est du Spielberg, on est d'accord. Avec un peu. Avec un final
là,
très fantastique.
Ouais, l'émotion ne vient pas de lui. Il reprend des tricks de la Spielberg tu vois, pour faire marcher les émotions. C'est pas lui qui. C'est pas son émotion à lui.
Non,
on aime bien quand on voit un film réalisateur, c'est de sentir sa patte à lui.
Oui, mais ça, c'est le problème de Abrams. Effectivement, j'ai le même sentiment sur la filmo de Abrams. C'est que c'est quelqu'un qui est un très bon faiseur, mais qui n'arrive, même si ça touche, effectivement, elle est très visuelle. Et narrativement, c'est pas quelqu'un qui arrive à te. À jouer avec les émotions
non.
Et c'est pas quelqu'un qui va non plus par rapport au personnage. Enfin, il applique les recettes spielbergiennes.
Ouais.
Donc du coup, ce sont des recettes vieilles de 20 ans. Et du coup, 30 ans maintenant. Et du coup, voilà. Donc c'est bien, mais c'est ça.
C'est on a un goût de déjà vu. Même si on en prend plein la tête et qu'on est content, on a quand même ce goût un peu de. C'est comme ton chewing-gum, en fait. Spielberg, c'est le chewing-gum, quand tu le prends pour la première fois, ça t'éclate la bouche, et pour 2 minutes, il y a encore du goût, et tu fais « Ah, c'est fait, il y a encore du goût ». Bah, Abraham, c'est un peu ça, quoi. C'est... Oh, il est bon.
Ça me fait penser à la fameuse saison 20 de South Park, ouais, avec les Member Berries.
Ouais.
Je sais pas si tu te souviens, ces petites baies qui parlent et qui t'arrêtent pas de te dire « Ouais, tu te souviens quand c'était cool, autour de Jedi ?»
La nostalgie et les souvenirs, ouais.
Ouais, c'est exactement
on reste
ça.
Bloqué dans nos souvenirs.
Voilà.
Ouais, ouais, si, je m'en rappelle ça. Ah, quelle saleté, c'est grave.
C'est la saloperie. Et écoute...
Et donc, non, ben, donc avec cette attente par rapport au 7, donc qui est sorti en 2015, après, ben, je me suis rematé cette semaine le 8.
Ouais.
Donc...
Mais on va en parler plus tard, je trouve.
Ouais, pour ouais, le 8, ouais. Mais pour pouvoir suivre, en fait, ouais, par rapport, pour expliquer un petit peu l'attente que j'avais par rapport à ça, puisque je voulais quand même me mettre dans le bain. Et j'avais peur, parce que j'avais un peu, pas zappé, mais il y avait des choses que j'avais un peu zappé sur le 8 en me disant, en le revoyant, en me disant, peut-être que j'ai mal compris, peut-être qu'il y a des choses, en fait, que j'ai lâchées. Non, en fait, non, pas du tout. J'avais bien capté la première fois, et en fait, c'est ça qui m'a fait le plus peur après la fin du film, en me disant, putain, ah ouais, d'accord. Et donc, beaucoup d'attentes en arrivant sur ce film. Et la première heure flippante parce que
mais c'est... flippante bien ou flippante
non flippante pour la suite justement où est-ce qu'il va quoi et la deuxième heure m'a rassuré effectivement mais ça va vite c'est bizarre il y a une sorte de sensation de ce côté très dense où il envoie plein de choses il a beaucoup de choses à finir en fait dans sa narration dans son histoire quoi. Abraham on le sent quoi il a engrangé plein de choses dans le premier c'était un peu l'idée quoi avec Kathleen Kennedy à l'époque quand ils ont bossé sur les scénarios et tout ça et d'ailleurs il y avait Colin Trevorrow qui était déjà sur le
oui,
coup
tout à fait à et qu'on voit crédité à la fin
ouais, et c'est pour ça normalement il était donc c'était lui qui devait réaliser en
oui,
fait,
malheureusement lui
mais il n'était pas au début des scripts du set.
D'accord. Oui,
en fait,
fait,
il a loupé, il est arrivé après, donc il a un peu loupé, on va dire, toutes les idées, et c'est pour ça qu'il s'est retiré, en fait, pour divergence un peu artistique oui, du
comme on dit toujours, comme on dit toujours.
C'est plus possible. Ouais. Et non, en fait, ouais, il fallait que ce soit Abraham, il fallait que ce soit Didier Abrams qui reprenne ce film-là, effectivement, pour pouvoir rester cohérent par rapport à ce que lui avait lancé et récupérer un petit peu ce qui avait été fait par Rian Johnson. Oh, punaise.
On va peut-être y aller tout doucement pour aller chercher notre trame.
Ouais.
Cette fois-ci, on va pas faire de Burger King.
Non.
Nous sommes loin, nous sommes au Ezel.
Exact.
Écoute, je partage assez ton point de
et
vue.
Et toi, Jimmy, qu'est-ce que tu as pensé de ce film?
Écoute, je partage assez ton point de vue. C'est-à-dire que, étant un grand, grand fan de la saga Star Wars depuis très longtemps, depuis ma plus tendre enfance,
j'ai moins de 40 ans.
J'avais un peu, je n'ai pas encore 40 ans, s'il te plaît.
Pour dire à quel point t'es.
Ne me vieillis pas. Non, non, j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma. J'ai vu les rééditions, des éditions spéciales de cinéma à l'époque. Je me souviens d'avoir vu une vision de l'Empire contre-attaque au Grand Rex.
Les rééditions où il a carrément aussi rajouté des scènes.
Oui, tout à fait, oui, l'édition spéciale. Et donc, ouais, et voilà, j'avais accueilli la trilogie avec impatience. J'avais été désappointé. Grandement, c'était mes premiers...
Désappointés.
Plus que désappointés.
C'est joli, ça.
Ah merde, on vient de le louper, je crois. Bon, c'est pas grave, on prend le prochain. Non. Et je me souviens, tu vois, en 99...
Elles ont commencé à sortir en 97, les rééditions.
Oui, et l'épisode 1 était sorti en 99. Je me souviens avoir fait la file...
Ah, l'épisode... Oui, autant pour moi. Excuse-moi, la menace.
Non, non. Oui, je fais un petit... une backstory avant d'arriver sur mon avis.
D'accord.
Je me souviens que voilà, j'avais fait la file pendant des heures pour avoir un plat. J'avais même vu en Suisse, à Bâle, en avant-première, tu vois, genre en août, alors qu'en France, il sortait en octobre. C'était l'époque bénie où les films sortaient 1 an après les sorties américaines. C'est sorti en mai, hein, 99, aux États-Unis et en octobre en France. Ouais, le truc
ouais.
Complètement what the fuck. Et cette nouvelle trilogie, je l'attendais, voilà, sachant que Abrams était aux commandes. En fait, j'étais rassuré et en même temps dubitatif. C'est-à-dire que connaissant le loustique, j'attendais, m'attendais déjà à être rassuré. Et je pense que c'est pour ça que Kennedy a été engagé à Abrams, parce qu'il avait fait un bon taf sur Star Trek. Et voilà, l'épisode 8, ben, on a pas mal de parfois parlé, surtout notamment la dernière fois avec
Jérémy.
Avec Jérémy, attends, on va se trouver un point dans le tram loin. Il n'y a pas trop de monde. Hop là, ton ticket, mon gars ?
Contrôleur à ce train-là, quand même.
J'espère, écoute.
Oui, on a fait l'arrêt là pour arriver jusqu'au
bout. Oh, pas mal quand même, une dizaine.
Ouais, ça va très bien.
Ouais, allez, hop, attends.
Ok.
T'es pas joué.
Salut Louis, qu'est-ce que tu racontes?
Hop, on traverse le tram. On va trouver une place ouais, au fond. Alors, mec, on est les rois du monde ici. Là. On est les rois du monde ici, mec. Ouais, c'est parfait là. Espérons qu'il n'y aura pas trop de monde qui viendra. De toute façon, si ça va. Ouais, c'est bon. Alors, ouais, mon avis vraiment à chaud. Rassuré.
Vous ne le voyez pas, mais il réfléchit.
Je réfléchissais grandement à ce moment-là.
Il a les cheveux, il s'arrache
les cheveux. C'est ça. Mes cheveux gras, j'entends là. Et. Mon avis à chaud. Écoute, c'est très étrange parce que d'un côté, j'étais rassuré. Je trouve que le film se tient. Le film clôture quelque chose qui a été commencé et de façon logique. J'ai aimé beaucoup les ambiances. Il y a notamment, le film pour moi se dégage en trois parties, mais pas trois parties de façon classique où tu as un premier acte, un deuxième acte, un troisième acte. Non, c'est. En gros, tu as 25 premières minutes qui sont très. Mais j'ai envie d'y revenir après, j'ai pas envie de spoiler trop vite, mais.
Bah, des parties qui rappellent un petit peu les films précédents.
Hein, voilà, c'est-à-dire que le problème, c'est que tu connais mon avis sur Ryan Johnson, et que je déteste en fait ce réalisateur. Pas qu'il soit mauvais en tant que tel, dans le sens qu'il fasse des mauvaises choses comme. Et Knives Out, voilà, vous pouvez entendre dans notre podcast sur Knives Out. Moi, je trouve que Johnson est un troll. C'est-à-dire qu'il aime. J'ai même dit un détrousseur de maman, en fait, l'autre fois.
Il a un micro aussi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que.
Il a un chapeau de l'opprocan, il vient de piquer ton argent dans les poches.
C'est un locrochon, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire le prochain moderne. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime détruire. Et le problème, c'est qu'il a détruit quelque chose en touchant un patrimoine. Et en fait, tu vois, Lucas, lui, il a détruit Star Wars sur l'épisode 1, 2, 3 par simplement le fait qu'il remettait ce que je te disais avant, c'est que pour lui, Star Wars, c'est les enfants. Sauf que le problème, c'est que ses enfants ont grandi depuis 77, 80 et 83, et que les fans se sont emparés de cette saga. Et que lui, en fait, il s'est focalisé, il s'est dit, non, mais je vais faire un Star Wars pour une nouvelle génération. Alors, je ne connais, il faudrait qu'on interroge des nouvelles générations, des gens qui ont eu 7, 8 ans à l'époque, quand c'est la trilogie est sortie, pour voir quel est leur ressenti par rapport au 1, 2, 3. Mais pour moi, par exemple, le 1 n'existe pas. Vraiment, il n'existe pas. Le fantôme n'existe pas. Ça a été une des plus grosses déceptions que j'ai eues au cinéma. Et Star Wars, quand il a développé ça en 77, quand il est revenu aussi avec la prélogie, c'est qu'il y avait une volonté technologique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faisait avancer le cinéma. Un peu comme James Cameron fait avec tous ses films.
Mais d'ailleurs, pour ça, ça a été le gros stress pour la 20th Century Fox. C'est eux qui ont mis les billes pour la première saga, la première trilogie originale. Et c'était une catastrophe.
Ah pour
c'était
eux,
une
ouais.
catastrophe.
Parce Surtout que les effets ont mis longtemps à venir.
Pour ça, il a créé des sociétés, justement.
ILM, par exemple.
Ça, Lucasfilm, c'est arrivé après pour justement un peu se détacher de tout ce qui est ces maisons de production qui lui mettaient un peu le couteau sous la gorge et qui retravaillaient ces films, ce qui le rendait complètement malade. Mais c'était surtout la Warner, ça.
THX 1138.
Exactement. Je sais plus où est-ce que je voulais revenir. C'était son tour, quoi. Pouvoir
contrôler le hasard. Et je pense que, on ne peut pas parler de la dernière trilogie sans parler de l'héritage qui était laissé, parce qu'il y a quand même 6 films. Donc trois exceptionnels qui sont des monuments du cinéma, je trouve, et des monuments de la pop culture. Il y a 4, 5, 6 et 1, 2, 3. Et en fait, le truc, c'est que Lucas n'a pas compris une chose par rapport à ses fans, c'est que nous, par rapport à savoir ce qu'on attendait, c'est sur l'épisode 1, 2, 3, c'était la guerre des clones, la Clone Wars. C'est-à-dire de savoir vraiment et de voir aussi comment Anakin Skywalker allait passer du côté obscur. Et on s'en foutait de le voir gamin. Nous, ce qui nous intéressait, enfin moi en tant que fan, ce qui m'intéresse, c'est de voir de comment Anakin Skywalker, adulte, tombe amoureux d'une femme qui donne naissance à des jumeaux qui vont être séparés, qui vont donner Luke et Leia. Et comment ce mec, il va devenir Dark Vador, mais pas en un film,
et pas en une demi-heure de film, tu vois, l'épisode 3. Mais le faire sur 3 films, et surtout, je voulais un film où on voit ce putain Dark Vador en action, tu vois. Que Dark Vador, il puisse bouillaf du type, quoi. Et en fait, c'est là où là, la plus grande scission s'est faite entre les fans et Lucas, et moi, où Lucas m'a perdu, même si je respecte son héritage et ce qu'il a mis en place, et sa vision des choses, parce que mine de rien, quand tu vois l'un, deux, trois, et quand même, suit, à part quelques aberrations du genre des conneries, les midi-chloriens, les conneries comme ça, et de voir Yoda se battre, ce qui était une grosse débilité. Non, ça fait une petite boule de poil qui saute partout, c'est complètement débile. Et enfin, surtout que c'est 30 ans avant, tu vois, en plus. Hein, donc, enfin,
ça
fait strictement. Enfin, voilà, il a 900 ans quand il meurt dans le retour du Jedi. Et là, donc, ça veut dire qu'il a 870 ans, quoi. Donc, voilà, donc c'est complètement débile. Et là, ils le font rajeunir comme si c'était. Enfin, il avait ses 300 ans, quoi.
Mais, c'est De Niro dans les Richemans.
Voilà, c'est ça. Et en fait, l'épisode 9, pour moi, c'est... Pour aborder cette dernière trilogie, c'est qu'on a eu quelque chose de très nostalgique, où effectivement, l'épisode 7 reprenait beaucoup d'éléments de l'épisode 4, avec justement tout ce côté, avec Starkiller, la planète Starkiller, qui ressemblait fortement à l'Étoile de la Mort. Tu disais, bah voilà, l'épisode 8 va être un peu comme l'Empire contre-attaque, un truc plus sombre, avec justement, je m'attendais à ce que Kylo Ren prenne beaucoup plus d'ampleur et que Snook vienne remplacer l'Empereur. Et on voit qu'on a eu un gros fist-fucking, je dois le dire, de la part de Rian Reynolds. Rian Johnson,
prend,
pardon.
Dans un sens, il prend plus de place.
Il prend plus de place. Et le fait, c'est que du coup, la trilogie a été complètement contrebalancée en fait, par l'épisode 8. Et le problème, quand Abrams est revenu, c'est que. Il s'est dit, bah voilà, maintenant je dois faire ce que je peux avec ce que j'ai.
Tu sais, quand même, c'est hyper paradoxal. Je te coupe.
Ouais, ouais, vas-y, mais.
C'est très paradoxal parce que pendant toute la production de la réalisation de Rian Johnson, Didier Abrams était là. Il assistait, il voyait.
Mais est-ce que c'est comme un commandant, un capitaine de vaisseau qui est en pleine tempête? Et qui voit son second qui a la manœuvre et qui fait de la merde et que de toute façon la tempête est tellement forte que les éléments entraînent et que justement il y a rien qui puisse être fait.
Je ne sais pas ça.
Enfin moi je le vois comme ça.
J'ai l'impression que ça donne effectivement.
Moi j'ai l'impression que Kathleen Kennedy qui gère maintenant Lucasfilm et qui gère la saga a bien verrouillé tout le truc et pour elle Rian Johnson a été un super collaborateur et hyper contente parce que le mec il a fait 1,3 milliard. Il a bouclé son budget, il a fait son tournage à temps.
Mais comme Didier Abrams, enfin, c'est des.
Oui, mais Rian Johnson n'est pas un aussi bon faiseur que Abrams, tu vois. Johnson, il est. C'est quelqu'un qui a voulu toujours mettre sa patte. C'est un putain de chat qui va c'est comme s'il y a deux chats et deux mâles qui sont qui arrivent dans la même maison. Il y en a un qui veut pisser partout pour marquer son territoire. Et Johnson fait ça avec tous les gens. Et on l'a vu avec Knives Out il y a pas longtemps, où en fait il nous prend le Agatha Christie like, tu vois, enfin le Agatha Christie like, et il nous le défonce et nous l'envoie à la gueule en nous disant bon allez vous attendez un trait de là. Ouais, désolé, on est vraiment désolé. Donc on n'a pas de bruit de bouche cette fois-ci pour l'instant, mais on a des bruits de tram.
C'est des toiles d'art qui nous tirent dessus.
Voilà. Ouais, on va essayer de juste cliner ça au maximum dans.
Ouais, tout à l'heure on va pouvoir en parler un peu plus.
Voilà. Et mon avis, c'est que je suis rassuré. Je suis pas méga full emballé.
Non, il y a une sorte d'amertume quand même.
Voilà, parce qu'en fait, moi j'ai une amertume liée à l'épisode 8 où en fait en gros je me dis putain mais. Là, il est obligé de faire deux épisodes en un. Et en fait, il y a, comme je disais, en fait, moi, c'est ça qui me dérange, c'est que du coup, il y a une. Je suis content de revoir tout le monde. Je suis content de revoir. On va pas spoiler, mais c'est pas très important si on apprend cette donnée qu'il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui reviennent.
On revoit Chewbacca.
Ah non, il est déjà là, c'est merde. Et voilà, on avait vu Lando aussi dans la bande-annonce. Ouais, c'était sans peu le dire. Et je pense que le problème aussi, c'est que il souffre d'un défaut que Johnson n'a pas voulu résoudre. C'est un défaut qui malheureusement est la mort naturelle de la princesse Leia, enfin de Carrie Fisher, merci.
Excuse-moi,
de Carrie Fisher qui est morte il y a deux ans, mais dans son film, il a pas fait mourir, mais par contre, il a fait mourir le seul acteur qui est encore vivant, c'est-à-dire Mark Hamill. Et je trouve que c'était très bancal niveau narratif. Parce que le film venait juste de sortir, elle était en fin de vie, et je trouve que c'est irrespectueux par rapport à une actrice. Sachant que voilà, elle avait des problèmes de santé, et ça allait pas trop bien vers la fin de sa vie, tu vois. Et donc du coup, on s'attendait vraiment, elle est morte en décembre,
2017,
juste
à... Non, 2016. Décembre 2016.
Tout à fait. Et épisode 8 est sorti en 2017. Hein.
Pas longtemps après.
Ouais, oui, c'est ça. Elle est morte en janvier ou en décembre, en janvier. Ouais. Et le film est sorti en décembre suivant. Et donc, du coup, tu vois, c'est qu'ils savaient, ils avaient le temps de pouvoir prévoir scénaristiquement de faire mourir la princesse Leia. Et elle avait tout intérêt à mourir dans l'épisode 8. Là, dans l'épisode 9, ça s'appelle Rise of the Skywalker. Donc, on est quand même sur les Skywalker. Les scènes qu'elle a, je trouve, sont nulles. Elles sont nulles. C'est-à-dire qu'on a trois bouts de dialogue et c'est quelque chose qui n'est pas intéressant. Mais bon, voilà, on va en discuter après de façon établie. Et moi, je me sens pas du tout détroussé par Abrams. Je me sens rassuré, surtout vers la fin du film qui est vraiment très intéressante.
Oui, c'est vrai qu'il y a un axe qui est abordé, effectivement, qui est intéressant.
Qui est très intéressant. Et pour moi, c'est un film malheureux, en fait. C'est un film malheureux. C'est un bon film.
Ah, mais c'est ce qui n'a pas été aidé, en fait.
Mais c'est un film malheureux. Et en fait, c'est ça le problème. Et c'est ça qui moi, m'embête, me turlupine. Je vais pas en faire des cauchemars, mais en tant que fan, je trouve que c'est dommage, en fait. C'est dommage d'avoir pris une saga en otage.
Ouais,
donc voilà, je parle beaucoup de Rian Johnson et assez peu du film, je m'en rends compte. Et le film a des grandes qualités visuelles, alors c'est extrêmement beau. C'est extrêmement beau. Ray prend une ampleur au niveau de jeu qui est phénoménale. Désirée Ridley est juste monstrueuse.
Ouais, elle le fait bien. Franchement, ça marche. Et Adam Driver.
Adam Driver, il est un peu sous-exploité par rapport à ce qu'on connaît avec le mariage story là, qui est disponible sur Netflix.
Ouais.
Je trouve que par rapport à son jeu d'acteur en tant que tel, il est un peu sous-exploité. Parce que Adam Driver a, depuis 2015, pris beaucoup d'ampleur et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que Abrams a été intelligent et a su tirer les pistes, les bonnes choses que Johnson a pu mettre en place dans l'épisode 8.
Et virer les mauvaises.
Et oui, et se désinspirer des mauvaises.
Hein. Ne pas traiter, en fait. C'est pas qu'il les enlève, c'est qu'il ne les traite pas, et du coup, c'est pas plus mal.
Voilà. Visuellement, il y a des choses super intéressantes. Les intérieurs de vaisseaux sont magnifiques.
Oui, c'est vrai qu'on revient sur un décor
plus épuré, maquette,
plus épuré
que Johnson a mis en place. Je tiens à souligner que tu te souviens la scène de baston.
Je tiens à souligner aussi que JB vient de faire un compliment sur Johnson.
Oui, tu vois, ça peut arriver. Je sais pas si tu te souviens la scène où quand Kylo Ren tue Snook, avec les gardes rouges, les sbires rouges, c'est les.
Elle est belle celle-là.
Elle est magnifique, avec le blanc et tout, c'est magnifique.
Celle-là, elle tue. Ouais.
On retrouve ce genre d'esthétique dans ce film. Il y a une, pour moi, il y a une grosse faiblesse qui est au final assez vite abandonnée, mais qui aurait pu se combler, même si il aurait pu se combler parce que tu vois, en tant que monteur réalisateur, je pense ce point de montage et je me dis que le truc, ce qui se met en place, que j'aime pas du tout et qu'on va revenir en discuter après, qui pour moi est la faiblesse du scénario du 9, il aurait pu très bien l'enlever et le polisser et le faire disparaître du script. Après, je trouve qu'il manque. Il manque encore une heure, en fait. Mais quoi, 2h15, 2h20?
2h10.
2h10, il manque encore une heure.
Ouais, 2h10,
il manque encore une heure parce que justement, il manque en fait vu que c'est deux épisodes en un, il manque du temps pour pouvoir développer des axes qui sont parfois, je trouve, un peu trop traités rapidement. Donc,
qui va très vite.
Et c'est ça la déception que j'ai, c'est qu'il y a un goût de trop peu, en fait. Ça, c'est mon grand défaut par rapport à l'épisode 9.
Exactement, c'est parce que t'es un peu ressenti que j'ai fait l'épisode
9.
C'est que
t'as une
sensation de densité.
Il te remplit de pistes, en fait. Il t'amène sur plein de pistes, sur un plateau, il te les donne et tout ça. Donc toi, t'as plein de directions sur lesquelles aller voir. Enfin, tu te dis, là, on va par là, on va s'y, enfin, on exploitera ça plus tard. Mais en fait, mais même après ça, en fait, même avec ça, il y a un sentiment de creux, de vide, comme tu dis, un petit peu de des choses qui manquent, quoi. Et pourtant, tu sais que, enfin, tu ressens bien là, cette envie d'Abrahams de te dire, on va aller par là, on va faire ci, on va faire ça. Là, je vous ramène là. Tiens, là, je te ramène ici. Tu vois, là, t'inquiète pas, t'as eu peur pendant le 8. Là, moi, je te ramène dans cette voie-là. T'inquiète pas et tout ça. Mais je sais pas, j'arriverai pas à l'expliquer. Il y a une sensation de vide quand même, quoi. C'est qui après se comble plus ou moins sur le sur la deuxième partie, mais qui se perd sur, mais voilà, voilà qui aurait pu être récupéré sur la longueur.
En fait, mais pour moi, il se récupère parce que justement, il y a le, on a des, en fait, dès le début, dès les premières scènes, on est rassuré très rapidement sur ce qu'on va voir et ce qu'on va avoir. Au final, quand tu y penses, donc c'est pas quelque chose qui nous perd. Abrams, il ne joue pas trop sur le côté nostalgique comme il a joué sur l'épisode 7, mais il nous rassure par rapport à ce qu'on a vu de l'épisode 8. Et ça, c'est pas normal. Et en fait, c'est ça qui est désobligeant, c'est qu'on est obligé de passer par des... De fait, de vous dire, bon, les gars, bah, oubliez un petit peu, regardez pas ce canard boiteux qui est derrière nous, mais voyez ce qu'on peut... voyez ce que l'univers qui a été créé. Et en fait, ce qui manque un peu, c'est de nouveauté dans Star Wars. Tu vois, c'est un peu comme une franchise Terminator, et c'est marrant parce que j'ai revu Terminator 1 très récemment, il y a 2 jours, qui est vraiment excellent. Et mais c'est marrant parce que tu vois un jeune Cameron un peu foufou qui a envie de me placer toutes ses idées très rapidement. Il y a des, je trouve que visuellement il y a 2-3 petites choses qui n'ont pas très bien vieilli. Non, pas du tout. On descend encore là. Non, c'est juste de fermer juste. Terminator est un très très bon film qui se tient, un grand chef, même si je préfère largement le 2. Mais il y a des choses visuelles qui ne fonctionnent moins et qui datent un peu. Par exemple, les vues du futur, quand la maquette de l'hélicoptère, enfin le vaisseau du futur, fait un virage, tu vois vraiment, c'est comme si c'est un gamin qui tient, tu vois, un hélicoptère avec la main qui fait.
C'est quelle année aussi?
85.
On est quand même 10 ans avant Jurassic Park.
Non mais on est d'accord que c'est. Non mais pour ça, il est quand même dingue. Et même.
Quand même bien cartonné.
Bon, on est quand même 2 ans avant Aliens, et là le niveau des maquettes est juste dingue.
Ouais.
Mais bon. Bref, mais non, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que tu vois, Terminator, en fait, et Alien aussi, d'ailleurs, c'est la même problématique, c'est que après, même si je dois dire que Terminator 3, finalement, en y repensant, n'est pas si mal que ça. Mais le problème de la saga Terminator, c'est que ils ont essayé de recommencer le 1 et le 2 en perpétuel. Et qu'à chaque fois, on t'a dit, ouais, on va faire des nouvelles trilogies, on a eu ça avec Genesis, et là, on a eu ça avec, il n'y a pas longtemps, avec Dark Fate. Vous pouvez écouter notre avis à chaud.
Le dernier est un exemple même de, on va reprendre ce qui a marché, on va voir ce que ça va donner. Quoi.
Voilà.
En changeant un petit peu les protagonistes. Et en
refaisant la même chose. Et en fait, c'est le problème qu'il y a avec la nouvelle trilogie de Ridley Scott dans Alien, c'est qu'on reste bloqué à... O1, c'est-à-dire un signal de détresse sur une planète avec une équipe de spécialistes qui vont répondre à ces signaux de détresse. Il n'y a aucune histoire, je veux dire, novatrice et nouvelle par rapport au mythe. Et c'est ça, en fait, le plus gros problème de la saga de Prometheus et le dernier, là, merde.
Covenant,
merci. Tellement, je l'ai vu d'un œil. Il y a 2 idées géniales et en fait, on reste 30 secondes dessus. Il y a 2 idées géniales. Il y a l'idée géniale quand merde, le nom de l'androïde de Fassbender, quand il revient dans la nouvelle planète
et qu'il extermine tout le monde.
Je trouve que ce passage là
avec ces petits insectes là,
avec les goûts, le black goût, en fait, ça, tu te dis, mais putain, mais ça, il aurait traîné sur une demi-heure de voir la suite de Prometheus directement et qu'on ait tout un prologue de Covenant, que ce soit la suite directe de Prometheus et qu'on ait justement Noomi Rapace, l'actrice qui est encore vivante et qui est avec Fassbender. Putain, tu te dis, mais là, quelle idée géniale. Et quelle civilisation de dingue. On voit 2 secondes de cette civilisation. Fassbender, il bute tout le monde. Mais les gars, putain.
C'est traité en flashback, je crois. Hein,
oui, vite fait. Et encore, tu sais pas trop, c'est très mal traité. Ouais. Et pareil, quand ils créent les aliens, parce qu'on, voilà, dans Covenant, on comprend que c'est Fassbender, le droïde, enfin l'androïde, qui est le créateur des aliens. Tu te dis, mais bon, et en fait, il fait ça.
Spoiler.
Oui, enfin bon, Covenant. Non, le problème, c'est que justement, c'est que c'est mauvais. C'est que j'aurais aimé mais c'est mal traité. Et du coup, c'est juste mauvais. Et la fin de Conan, tu le vois à 10 km. Et tu reviens tout le temps sur ce même délire de. On a un appel de détresse et puis on sait. Quel est justement.
pourquoi il n'y a pas des ouvertures vers des nouveaux mondes, mmh. des nouvelles explorations. Et aussi, ce qui me rendait dingue par rapport à la saga Alien, c'est que les mecs, ils vont sur des planètes... parce que je crois que la planète de Alien, c'est LV... LV, je ne sais plus combien, 244.
Ouais,
et là, en fait, ils vont à genre un LV 200 juste à côté, quoi.
Ah, dans Covenant. Ah, oui.
Et dans Proventius. Attends, je vais taper planète... Alien.
Non, Covenant, c'est des planètes où ils sortent sans des masques.
Oui, voilà. Alors.
C'est quand même des explorateurs et des chercheurs qui doivent faire attention.
LV 426, voilà.
Ça, c'est dans Alien
1. Ça, c'est Alien 1. Et on y revient dans Aliens de Cameron. On y revient. On revient sur LV 426, qu'ils ont terraformé et que Weyland Yutani a envoyé une équipe d'ingénieurs pour terraformer, pour en fait, au final, récupérer l'alien pour en faire des armes. Et qui est développé dans Alien 4 de Genet. Et les tu vois, et en fait, quand tu vois, Cameron est juste un génie, et lui, Cameron a tout compris, quoi, il a tout remis dans le sens. Bon, on en revient toujours à cette conclusion que Cameron est un génie. Mais bon, après, on va voir dans Avatar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2022. Attends. On passe à côté du docks, il n'y a pas beaucoup de.
Il n'y a personne.
Il n'y a personne. Bah, merci, mec. Si, il y a nous dehors en train de faire un podcast, comme à chaque fois qu'on va au White.
Il y a le tunnel ouvert.
Ah putain. Ouais, ce truc-là. Je crois que c'est déjà en vendre. Ah, en vendre. En vendre, je ne sais plus parler. Hein. En vente, putain. On va y arriver. Et donc, je reviens sur cette saga Star Wars. C'est que on ne sort pas d'une boucle en fait, narrative qui est en fait en gros le 4-5-6. Mm-hmm. Qui est juste une redite. Le 1, 2, 3 avait au moins l'originalité d'apporter quelque chose de nouveau. Même si c'était mauvais, au moins avait l'originalité de traiter sous un angle différent.
Mais en fait, il n'a pas répondu à ce que tu vas attendre les fans, quoi. 1, 2, 3, c'est...
Mais aussi, quel est aussi le problème, ici, c'est ça le problème avec une saga, c'est quelle est l'importance, tu mets l'importance du fan.
Je sais. Ah oui, on en revient à ce qu'on parlait tout à l'heure. Ce dont on parlait tout à l'heure, justement. C'est que sa saga ne lui a plus vraiment.
Mais c'est ça le problème. D'ailleurs, faut que tu as déjà vu le docu People versus George Lucas ?
Non.
Très très bien, très très bien. Ou justement qui traite de cette thématique et qui montre justement le pourquoi les fans se sont mis à dos. Alors je me souviens plus exactement le tout du documentaire, mais de pourquoi ils expliquent comment le phénomène, comment ça s'est passé petit à petit, où les fans se sont vraiment mis à haïr Lucas. Le problème du gros Lucas, c'est que bah voilà, après on était content, je suis content au final qu'il ait vendu Lucasfilm pour que Disney, pas forcément à Disney, parce que Disney,
En 2012, ouais.
2013, ouais. 2012, ouais, pardon. Et moi je suis pas, voilà, le problème de Disney, voilà, je suis pas un grand fan de Disney devant l'éternel, de toute façon on n'a pas le choix, maintenant. Non, je suis pas un grand fan de Pixar. Moi, c'est vrai, j'ai grandi, je suis adulte maintenant, c'est bon.
Vous ne voyez pas, mais je lance des...
Ouais, les typiques. Ouais, parce qu'on a vu la bande-annonce de Soul avant de venir, le film de Pixar, et moi j'ai râlé dans ma barbe, dans ma barbe rousse, et je me suis dit, putain, mais merde, non, mais putain, encore du Pixar, enfin, non.
Je pense avoir un alien
en disant. Non, pas du tout, non. Mais non, mais Disney, j'ai un rapport bizarre avec Disney, où en fait, c'est juste que le côté de polissage de la violence, polissage des choses de la vie, font que Disney ne me touche pas. Bah, mais bon, je suis
quand
même.
Tu l'as fait remarquer quand on a vu la bande-annonce de Mulan, où tu vois toutes ces batailles, il n'y a pas une goutte de sang.
Et pas une goutte de sang, ouais. Putain, de, pas une goutte de sang.
Ils seront propres alors, c'est.
C'est pas Braveheart. C'est pas Braveheart.
Mais non, c'est vrai qu'il s'aime.
À Braveheart, ça envoie. Non, putain.
Ketchupise.
Ouais, voilà, mort. Et donc, du coup, j'étais plutôt content, mine de rien, que Disney lance ce truc. On a eu des bonnes surprises comme Rogue One.
Ouais.
Et Rogue One est un film Star Wars qui fonctionne, mais à mort. Mais en même temps, parce qu'il a réussi à prendre les codes. Il était bloqué aussi au niveau de l'histoire, parce que c'était un peu une histoire qu'on avait plus ou moins les tenants, les aboutissants. On savait la fin. Et on savait que ça se passait mal. Mais on était content de vouloir savoir comment ça se passait. Et voilà, on a été déçus par Han Solo, parce que pour moi, je trouve qu'ils ont loupé quelque chose de très important sur Han Solo. C'est...
La lumière.
Non, Mais Han Solo est un bon film d'aventure, mais un mauvais film d'Han Solo. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas repris l'essence même du personnage de Han Solo. Mm-hmm. Han Solo est quelqu'un... c'est un baroudeur, c'est un western, c'est un cow-boy, c'est un solitaire.
C'est un énorme solitaire.
Et il a un flegme. Harrison Ford a mis dans son jeu un flegme. C'est un dragueur. C'est un joueur.
T'imagines pas comment ça a été un enfer pas possible pour Harrison Ford à l'époque de la première trilogie pour justement cerner son rôle, puisque Lucas est très connu
pour être un
directeur de
d'acteur génial.
D'acteur génial.
Ouais. Enfin,
Lucas, c'est The Référence en direction d'acteur. Quoi. C'est...
Mais justement, il a été très intelligent, il l'a bien fait, et c'est ça qu'on attendait. Et par contre, Donald Glover en Lando Calrissian, en jeune Lando, il a tout compris. Il est monstrueux. Mais voilà, et donc Han Solo n'est pas un mauvais film d'aventure, mais c'est un mauvais Star Wars. Et nous, tout ce qu'on attendait, et d'ailleurs, je crois que c'est des frères de Frangin qui avaient commencé Han Solo.
À bosser dessus.
Et ils se sont fait virer. Ouais, les frères Miller. Ils se sont fait virer, c'est Ron Howard.
Qui a fait Lego. Ouais, Lego The Movie. Ah, bon, c'était eux, en fait. Ouais.
Et donc, ils se sont fait virer pour différents créatifs. Enfin, et c'est Ron Howard qui a récupéré le bazar, qui a sauvé les meubles. Mais
compliqué quand même.
Compliqué.
La tâche, hein,
et en fait, de ce qu'on sait, et ça, on, malheureusement, on le verra jamais, mais ils ont tourné plein de séquences de quand Han Solo est dans l'Empire. Parce que Han Solo s'engage dans l'Empire, parce qu'il veut devenir pilote.
Exact.
Il y a des batailles de tranchées, de style un peu 1917, genre Verdun, qu'on voit vite fait où c'est dans la boue, machin. C'est ce qu'on avait envie de voir, tu vois. Donc, la construction de pourquoi le mec il devient un solitaire, quoi. Il devient un.
Peut-être qu'on
un cowboy, quoi.
Peut-être qu'on aura le droit un de ces jours à
non,
ses
on aura jamais. Non, non, t'es fou, on n'aura jamais le droit à ça. T'es fou.
Ça n'a jamais été monté, ça n'a jamais été. Ça a été filmé, si, mais pas.
Non, parce qu'ils ont fait des reshoots, ils ont tout reshooté.
Ah, attends, non, les scènes dont tu parles, là, c'est pas les scènes que Ron Howard a faites.
Non,
les
c'est,
de,
c'est des frangins à Miller, ouais. Enfin, si c'est Miller le nom, je sais plus.
Je sais pas si c'est des. Je sais pas si c'est des frangins.
Si, c'est, je crois que c'est deux frangins, si. Oh putain, tout que je déconne. En plus, c'est la fin de l'année, là, on n'en peut plus. On est crevé à mort. On n'a qu'une envie, c'est rien faire et bouffer de la dinde et.
Non, des flamencus.
Des flamacoires, hein, comment dire en alsacien.
D'accord.
Quand même. Nous savoir, on n'a plus qu'à 3 arrêts.
3 arrêts ?
Ouais. Mmh. Est-ce que tu as les frangins ou c'est un duo ?
Non, tu vois Chris Miller et Phil Lord.
Ah d'accord, putain, pourquoi
c'est
je sais pas
duo.
Pourquoi. Ouais, mais ils avaient fait quoi avant hein. Je sais plus pourquoi. Ah oui, tu disais Lego. Les... Je sais pas pourquoi je voyais des frangins. En fait.
Les 21 d'un truc. Ah oui, et ils ont fait le dernier Spider-Man en film d'animation. Tu
ah, pas aimé. C'est vrai que j'ai pas aimé. J'ai tenu 5 minutes. Attends, ça c'est Louis Bertrand, et donc nous c'est le prochain.
D'accord.
Ouais. On y est déjà. Et voilà, et Han Solo, c'est dommage parce que, et du coup, c'est con parce que ça a arrêté. Han Solo, on aurait aimé voir un peu plus. Et aussi, il y avait Emilia Clarke, Khaleesi dans Game of Thrones, que je déteste en tant qu'actrice, qui est mauvaise.
Dans Genesis, c'est une horreur.
Ah, mais tu sais que jamais je l'ai pas vu et j'ose vraiment. J'ai envie de le voir quand même, mine de rien.
Bah oui, à la limite, tu le dis, on se prend des bières, des pizzas et
on se le fait.
Avec Sergio et Matt. C'est celui-là ?
Ouais, c'est le prochain. Ouais, donc attends, on va attendre un petit peu. Faut meubler un petit peu le temps qu'on arrive à l'arrêt. Non, c'est le prochain. C'est le prochain, pardon, en fait. C'est le prochain.
Meubler.
Merde, en fait, on est con. Désolé, les gars, en fait, on s'est planté. Enfin, voilà, ça c'est.
Point noir,
ouais.
Si vous voulez aborder, justement.
Ouais, et en fait, et du coup, c'est chiant parce que du coup, Obi-Wan, le film Obi-Wan, eh ben, il sera en série, il sera une mini-série.
Et surtout, la série solo qui devait être faite, c'est qui en fait ne va pas être
faite. Ah, il va pas être fait. Ah, il y avait une série à la base,
je pense qu'il y avait quelque chose qui devait être développé en fonction du succès
de Solo, ouais, forcément.
Solo,
ouais, forcément. Mais par contre, je te conseille activement Mandalorian, ouais. Qui lui, Jon Favreau, a tout compris. Et on retrouve l'univers, ça se passe entre l'épisode 6 et 7, et c'est putain d'excellent.
Il comprend plein de choses apparemment, ce Favreau.
Ah non, mais Favreau...
C'est lui qui a relancé les Marvel avec...
Ouais,
les
non,
Iron
franchement...
Man,
je pense que le 8 aurait dû être réalisé par Favreau. Merde, non, c'est pas encore là, putain, je me plante, mec. Attends, on va se mettre le côté.
Juste pour revenir par rapport à Solo,
ouais.
Ça a été tellement un échec... dans la saga que normalement il y avait des plannings quand ils ont racheté en fait
ouais.
Disney a racheté Lucasfilm où on va, ouais, quand Lucas, enfin, ouais. Lucas a vendu sa société à Disney, il y avait tout un programme en fait de films.
Oui, c'est
avec,
vrai, je me souviens. Ouais.
Et après Solo, en fait, ils ont décidé de
stopper.
Bon, on va peut-être pas faire un film tous les ans, peut-être que les gens en ont marre, peut-être que les gens ça les gave, on va calmer les jeux. Quoi. Et ça s'est clairement stoppé. Quoi. Bah, il y a du. Bah, c'est. Celui de Rian Johnson, le 8 en fait est sorti pas longtemps après.
Ouais, tout à fait, ouais.
Mais après, ça a été.
Après, on a dit stop. Oui, parce qu'effectivement, été... c'était genre mai, décembre.
Et d'ailleurs, pour en revenir tout à l'heure à cette affiche dont tu parlais, en fait, elle est morte en décembre 2016.
Ouais.
Et le 8 est sorti en 2017. Un an après.
Donc, du coup, tu vois, il aurait eu largement le temps de faire des reshoots, d'adapter son scénario pour pouvoir justement le mettre. Mais non, des reshoots, non, mais pas des reshoots avec elle, mais des reshoots avec justement par rapport à l'histoire et par rapport à changer son ton le scénario. Parce que si tu es intelligent, tu construis ta trilogie en trois actes, donc du coup, le 1, 2 et 3 doivent se suivre, enfin, le 7, 8, 9, et donc du coup, les éléments du 9 que tu comptais mettre en place, non, c'est le sûr, oui, mais complètement. Hein. Et complètement. Et du coup, tu vois, si tu fais le 8, tu sais que tu connais déjà les éléments du 9, tu vois plus ou moins, donc tu sais que narrativement, tu peux construire quelque chose.
Ouais, mais bon, là, apparemment, Johnson, il s'en est foutu.
Et c'est ça, en fait. Et il s'en est foutu, mais complètement, quoi. Et. Tu dis, mais merde, quoi, enfin, je veux dire. C'est ça, en fait, tellement on se fout de la gueule du monde, on se fout de la gueule du fan, du non-respect du fan. Le non-respect du fan. On est bientôt arrivé. Et on va manger, mec. Non, on est arrivé là. Il y a un feu, on y est. Et voilà. Mais écoute, dès qu'on descend, je te propose de passer à la partie spoiler. Si tu as encore des choses à dire
contre-imposer.
Mais là, est-ce que tu as encore des choses à dire sur par rapport à un avis général, sans spoil de.
Un petit personnage qui apparaît.
Ouais, il est pas mal.
Qui a vraiment un petit rôle, mais qui est mieux que ces petites créatures qui étaient sur l'île de Skywalker dans le 8, ouais.
Qui ne servaient à rien.
C'est à côté.
Ah, j'aime juste pour finir par rapport à cette première partie sans spoiler, c'est juste que pour une saga aussi importante, moi quand même je m'attendais à un petit peu plus de risques. Ouais. Et je l'ai pas ressenti. Et pareil pour l'émotion, justement. C'est cette émotion qui manque, en fait, dans ce film, je trouve. À la fin, quand même, il arrive un petit peu à la trouver, à la faire remonter. Mais franchement, pendant quasiment une heure et demie du film,
l'émotion, elle est pas là.
Je sais pas, J. Abraham, s'il est méga bon pour les scènes d'action, c'est un mec qui sait mettre du rythme. Au niveau du montage, ça colle, et encore, enfin non, au niveau du rythme il est bon, mais au niveau du montage, des fois ça.
Ouais, mais ça c'est le problème de la 3D
aussi. Ça cut brusque, hein, ça cut.
Et c'est le problème de la 3D, c'est que du coup, tu dois avoir un rythme plus, un peu différent et plus spécial. Ouais. C'est-à-dire que vu que tu dois t'acclimater au fait de voir la profondeur, ça te change quoi dans ton rythme. C'est pour ça que je pense que j'irai d'office le revoir en une traite,
oui,
en 2D.
Oui. Ah oui, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais on a eu une pause pendant le film de 10 minutes. Génial.
Alors, c'est une spécialité belge qui se passe au Kinépolis pour les longs films. J'avais eu le coup pour Bilbo le Hobbit à l'époque, à Imagine Brain. Et j'avais oublié
que... le film a duré encore plus longtemps que...
Oui, parce
mon
que...
pauvre, putain.
Et je peux dire que... Parce que le film durait... Bilbo, c'était 2h30, un truc comme ça. Mm-hmm. Et en fait, il y avait cette pause. Et en fait, en fait, ils prennent le milieu du film et ils te coupent sans prévenir, sans aucune sommation et sans aucune volonté artistique de couper à la fin d'une scène ou au début d'une scène. Enfin, à la fin d'une scène, ce serait logique.
D'ailleurs, là, c'est un peu trash. Hein. C'est un peu trash comment ils coupent.
Ah, c'est d'un coup, l'écran devient noir.
Faut que je te raconte d'ailleurs. Enfin, ça a duré 2 minutes, hein, ce que tu as loupé.
Ouais. Oui, ouais. Wow.
Juste, je pourrais te le dire. Je te le dirai tout à l'heure ce que c'est quand on se prendra
un participant. J'ai compris parce que du coup, on est sorti vite fait filmer une clope parce qu'en fait, Kinépolis fait ça. Bah pourquoi ? Parce que bon, déjà les gens vont faire pipi, ok, mais ils vont acheter à manger pour faire un refil. Et en fait, moi, ça me fait.
Sauf nous.
Et voilà, et moi, ça me fait chier parce que putain, c'est la Netflix. Putain, j'ai pas réussi à le dire.
Netflixisation.
Voilà, merci du cinéma. En fait, en gros, c'est. comme chez toi, quand tu te fais chier par rapport à un film, tu fais pause, tu regardes ton téléphone, tu checkes ton téléphone. Et c'est l'ère du checkage de téléphone.
Exact.
Et donc, du coup, bah, si au bout d'un moment, bah, le film est long, bah, forcément, le spectateur doit s'ennuie, même si là, au départ, c'est une volonté mercantile pure et dure. Et c'est juste pénible, en fait.
Ça se faisait beaucoup avant.
Hein. Ouais.
Ouais, dans les années 80, 70, t'avais beaucoup de films qui étaient déjà beaucoup plus courts. Hein, c'était des formats d'une heure et quart ou une heure vingt. T'avais déjà des pauses comme ça.
Et je sais pas si tu te souviens, dans 2001, le Ciel de l'espace, il y a un intertitre, il y a marqué Intermission, donc pause.
Ah.
Et qui est prévu, il y a la musique. Exact. Et c'est Kubrick qui met qui influe.
Donc tu vois, c'était un peu dans les codes, quoi. Quand
ouais,
même.
Mais Kubrick, il laisse la musique continuer. Il le fait à un moment où il choisit de le faire, tu vois, comme pause. Parce qu'effectivement, 2001 est très long. Mais voilà. Et en fait, c'est juste pénible parce que ça te casse complètement. Et donc, du coup, tu as l'impression, bah voilà, t'es dans le film, puis d'un coup, pouf, t'es sorti. Et tu dois revenir dans le film. T'es en plein milieu, début d'une scène d'action. Putain, c'est chiant, quoi. C'est franchement clair. C'est chiant.
C'est pas bon de faire ça, en fait. Plus jamais, ça.
Bah, le problème, c'est que...
Pour les voir
en IMAX, il n'y a pas de pause.
Normalement, non. Hein, non ouais, ça. Je ne me rappelle plus. Pour,
et je pensais qu'il y en avait en Wallonie, mais pas à Bruxelles.
D'accord.
Parce que Wallonie, c'est sûr. Et pour les longs films, en fait, c'est pour les gamins, se disant qu'ils fassent une pause. Mais non, c'est juste pour aller acheter du pop-corn salé, en plus. Il y a plus de pop-corn salé que de sucré à Kinépolis.
Putain de consommateur. Il était bon, mon paquet d'M&M's. J'ai beaucoup aimé.
Ah, pareil.
Celui que j'ai pris avant de rentrer.
Et ils sont très fat, hein, je sais pas si c'est... Ils sont très longs. Il m'a duré longtemps, celui-là. C'est une petite tradition, ça. Prends un paquet de M&M's.
Mais donc, non, la vie, enfin, pour moi, en tout cas, c'est que, pour clôturer cette première partie, parce que l'on va arriver, non, bien. Bien, au final, ça va. C'est pas non plus la grosse holla à dire sacrilège, qu'est-ce qu'il a fait, putain, qu'il a voulu nous dire, qu'est-ce qu'il a voulu jouer, il a oublié des trucs. Non, il a fermé.
Il a fait le job.
Il a fait le job, il avait ouvert des portes, il les a fermées, il a conclu la chose comme il voulait. Et je pense que Lucas serait satisfait de la fin.
Ouais, à mon avis, oui.
C'est une fin à la Lucas, quoi.
C'est une fin à la Lucas. Donc, pour moi,
c'est pas non plus le retour du Jedi, mais c'est une fin à la Lucas.
Oui, oui.
Heureusement que c'est Black. Ouais, moi, j'y ai cru. Hein. Ouais, je le dis pas maintenant, mais j'y ai cru. Ouais. Hein, putain, quand j'ai vu le truc, j'ai fait non.
Non, moi, non, parce que je l'ai senti venir. Voilà, bref.
C'est ici que s'arrête la partie sans spoiler de notre critique de Star Wars épisode 9, Rise of the Skywalker, de J.J. Abrams. On est encore désolé pour les petits problèmes de son. Maintenant, je vous invite à écouter la suite de l'analyse avec spoiler, avec beaucoup de spoilers. On va revenir sur tous les détails du film. À tout de suite.